Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre. Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour mon ami, je suis heureux que vous vous soyez joint à moi, où que vous soyez. Vous êtes peut-être assis dans un pub en Irlande, en train de m'écouter, ou vous êtes peut-être en Éthiopie, en train de m'écouter. Vous êtes peut-être quelque part en Amérique du Sud. Vous êtes peut-être au cœur de l'Europe. Vous êtes peut-être sur l'une des îles du Pacifique. Vous êtes peut-être quelque part en Asie. Nous diffusons dans le monde entier et dans de nombreuses langues. Mais ce qui m'étonne, c'est que, bien que le monde soit si vaste et compte des milliards d'habitants, Dieu nous voit individuellement. Il connaît le langage secret de votre cœur. Je crois qu'à travers le temps que nous passons ensemble ici dans la parole de Dieu, Dieu va communiquer avec vous d'une manière que vous comprendrez. Il va vous parler d'une manière qui vous permettra de savoir qu'il vous voit. Nous sommes actuellement dans le livre des Philippiens, et j'ai récemment partagé quelques messages tirés de ce livre. Il est tellement riche. C'est l'une des épîtres de Paul écrites en prison. Alors qu'il était emprisonné à Rome, il a écrit le livre des Philippiens et leur a donné de précieux conseils inspirés par le Saint-Esprit. Lors de mon dernier message, nous avons examiné le chapitre 1, verset 11, où il dit vouloir qu'il soit rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Tout le monde est rempli de quelque chose. Et il est très intéressant d'analyser les différentes choses dont la Bible dit que les gens peuvent être remplis. Elles ne sont pas toutes bonnes, mais tout le monde est rempli de quelque chose. Dieu veut que nous soyons remplis du fruit de justice, ce qui signifie que le don de la justice que nous recevons est le salut. Les Écritures disent, à propos de Jésus, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, et que nous sommes considérés comme justes grâce à son sang. » Vous êtes aussi juste devant Dieu que vous pouvez l'être dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mais ensuite vient le processus qui consiste à prendre ce que Dieu a mis en nous et à le manifester à l'extérieur dans nos attitudes, nos relations, nos paroles, nos affaires, nos relations avec les autres et dans notre vie privée, lorsque personne ne nous voit à part Dieu. Ce sont là les fruits de la justice. Nous avons déjà parlé de certains de ces fruits. Ésaïe a dit, « L'œuvre de la justice, ce sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. » Les dons de l'Esprit en Galates 5 peuvent tous être considérés comme le fruit d'un esprit qui a été réconcilié avec Dieu. L'amour, la joie, la paix, la fidélité, la maîtrise de soi, etc. Gagner d'autres personnes à Christ et les amener dans le royaume de Dieu est un fruit qui devrait se manifester dans notre vie et qui devrait rendre gloire à Dieu. Il existe de nombreux autres fruits mentionnés dans la Bible, mais il s'agit essentiellement de faire ressortir vers l'extérieur la vie que Dieu a mise en nous. L'un des principaux moyens d'y parvenir, que nous avons déjà examiné et discuté précédemment, consiste à être ouvert à la correction de Dieu, être disposé à être corrigé à travers sa parole. Que cette correction vous parvienne en lisant et en étudiant la parole de Dieu, que vous devez décider de considérer comme votre autorité ultime dans toutes les questions de conscience et de vie, ou qu'elle vous parvienne par l'intermédiaire d'un prédicateur lorsque vous écoutez la parole prêchée, ou par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur dans le Seigneur qui partage avec vous dans un esprit d'amour en apportant une correction dans votre vie. À propos de n'importe quoi, simplement en disant « ton attitude ne glorifie pas Dieu » et « la façon dont tu gères ton argent n'est pas correcte ». Tu dois mettre le royaume de Dieu en premier et rechercher sa justice. Et toutes ces autres choses te seront ajoutées. Tu dois honorer le Seigneur avec la première partie de tes revenus. Cela peut concerner vos enfants, cela peut concerner des négociations commerciales, peu importe ce que c'est. Je remercie Dieu pour les amis qui sont suffisamment proches de nous et qui nous aiment suffisamment pour nous dire la vérité. Le livre des Proverbes dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs ». Mon ami, la flatterie ressemble beaucoup au parfum. Elle sent bon, mais il ne faut pas l'avaler. Un véritable ami vous dira la vérité. Si vous faites des erreurs, si votre attitude est mauvaise, il vous le dira. Lorsque nous sommes ouverts à cette correction et que nous y répondons, les Écritures disent que c'est l'une des façons dont ces fruits se manifestent dans notre vie. Jésus lui-même en a d'ailleurs parlé. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, en Jean 15, 1 et 2, Jésus a dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Jésus est le cep. Lorsque je lui donne ma vie, je suis intimement lié à lui. La vie du cep coule dans les sarments. Je participe à sa nature divine, a déclaré Pierre. Le Seigneur veut que nous portions du fruit et il nous taille. J'avais une vigne qui poussait sur le côté de ma maison. Il y avait une grande clôture sur le côté de ma maison. Je n'arrivais pas à obtenir le moindre raisin. C'était tellement frustrant. J'en ai donc parlé à un ami qui travaillait dans des vignobles et qui s'y connaissait en matière de culture du raisin. Je lui ai demandé de l'aide. Il m'a dit « Bayless, pas de problème ». Il a pris ses cisailles et a coupé ma vigne. Elle ressemblait à un bâton accroché au mur. « Qu'as-tu fait ?» Je l'ai taillé. Il m'a dit « Toute l'énergie de cette vigne est concentrée dans ses branches et ses feuilles, et elle n'a pas assez d'énergie pour produire des fruits, car elle consacre toute son énergie à des zones non essentielles. Elle ne peut donc pas faire ce qu'elle est censée faire. Il faut les tailler et les couper. » J'ai répondu « Oh, d'accord. » J'étais tellement surpris. Elle a commencé à pousser après cette taille et soudain, des grappes de raisin ont commencé à apparaître partout. J'ai eu tellement de fruits de cette vigne, j'ai donné des grappes de raisin aux voisins. Tout notre comptoir de cuisine était rempli de grosses grappes de raisin succulentes parce qu'elle avait subi un processus de taille. Lorsque nous sommes en communion étroite avec le Seigneur, lorsque nous passons du temps avec lui, ce qui est également très important, il nous corrige. Oui, il nous aime, oui, il nous réconforte, mais la Bible dit « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime ». Le Seigneur reprend, il corrige ceux qu'il aime. Si quelqu'un est dispensé de la correction, c'est qu'il est un enfant illégitime et non un fils. J'aime suffisamment mes enfants pour les corriger. Quand ils étaient petits, je les corrigeais pour leur bien, car je savais que s'ils ne changeaient pas l'attitude qu'ils manifestaient, cela leur ferait du mal plus tard dans la vie. Je les ai peut-être traités durement quand ils étaient jeunes. Ils détestaient cela et ce n'était pas joyeux pour eux. Mais plus tard, cela a produit de bons fruits dans leur vie. Je les ai préservés de beaucoup de souffrances plus tard dans leur vie parce que je les aime. Le Seigneur fait la même chose avec nous. Il nous taille. Il s'occupe des mauvaises attitudes. Il s'occupe des mauvaises pensées. Il s'occupe des mauvaises actions. Il s'occupe des mauvaises paroles. Il nous corrige. Comment fait-il cela? Eh bien, il poursuit au verset 3. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il a dit « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » En fait, le mot traduit par « pur » au verset 3 est le même que celui traduit par « taille » au verset 2. Jésus a dit, « Vous êtes déjà taillés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il nous taille par sa parole. Il ne vous taille pas par des accidents de voiture ou en apportant la maladie dans votre vie. Il ne vous taille pas en vous apportant des catastrophes et des chagrins. Il vous taille par sa parole et nous avons le choix. Le livre des Hébreux, qui s'adresse aux chrétiens, dit « Si vous êtes dispensé de la correction, vous êtes enfant illégitime. Eh bien, s'il s'agit d'un accident de voiture, si cela m'est imposé, je n'ai pas le choix. S'il s'agit d'une maladie qui m'est imposée, je n'ai pas le choix. » Mais il dit spécifiquement en Hébreux 12 aux croyants que si vous êtes dispensé de la correction, en d'autres termes, si vous la refusez, vous serez comme un enfant illégitime, vous perdrez vos droits d'aînesse, vous perdrez votre autorité. Rien de tout cela ne fonctionne sans la correction du Seigneur. Jésus dit donc ici, « Je vous taille par ma parole ». J'ai le choix de répondre ou de ne pas répondre à cela. Il y a beaucoup de gens dans l'Église, oui, beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est la plupart des gens, mais il y en a beaucoup. Lorsque la parole va à l'encontre de ce qu'ils pensent, ils croisent parfois les bras et disent « Non, je ne ferai pas cela, je ne vais pas donner la dîme, je ne vais pas donner la première partie de mes revenus à l'Église, je ne vais pas traiter ma femme comme Christ aime l'Église. Je suis le chef de cette maison et les choses se passeront comme je le veux. » Le mari est plutôt un dictateur et la femme se révèle être une manipulatrice plutôt que de répondre à son mari avec honneur, comme l'Église est censée répondre à Christ. Ou encore qu'il s'agisse d'élever nos enfants ou de traiter ceux dont la Bible dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Certaines personnes disent « Je ne ferai pas cela. » Vous serez sans correction, vous serez traité comme un enfant illégitime. Les droits et privilèges qui vous appartiennent en tant que fils ou fille de Dieu ne fonctionneront pas pour vous si vous refusez la correction du Seigneur. Jésus nous corrige donc à travers sa parole et nous avons le choix d'accepter ou non. Verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, » le mot « demeurer » signifie maintenir une communion vivante. Vous devez rester en communion avec Jésus. Votre vie doit tourner autour de Jésus, tout ce que nous faisons doit revenir à lui. En fait, la Bible appelle Jésus la pierre angulaire. Une pierre angulaire était posée en particulier dans le monde antique, exactement au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ses dimensions étaient exactes, elle avait une taille précise et était posée de manière spécifique. Toutes les autres dimensions du bâtiment étaient prises à partir de cette pierre angulaire principale afin de s'assurer que tout était aligné. Si le bâtiment n'était pas aligné, il se basait sur la pierre angulaire afin de tout aligner parfaitement. Notre vie doit être ainsi. Au verset 8, il dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, mais ici, il passe du verset 2, où il parle de porter du fruit, au verset 5, où il mentionne porter plus de fruits, puis au verset 8, où il parle de porter beaucoup de fruits. En fait, il passe de fruits à plus de fruits, puis à beaucoup de fruits. Puis au verset 16, il dit « Afin que votre fruit demeure ». Je vais vous lire le verset 16 où Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Dans ce processus, Jésus parle donc de demeurer en lui, d'être taillé, corrigé et purifié par sa parole. Nous passons du fait de porter du fruit à celui d'en porter plus, puis beaucoup, jusqu'à avoir un fruit qui demeure. Il y a tout un processus. La vie chrétienne est une vie de croissance, mon ami, et Dieu veut que vous grandissiez. La fécondité de notre vie devrait augmenter et Jésus a dit que le Père serait glorifié. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens 1:11, « Afin que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Dieu désire que vous portiez beaucoup de fruits. Poursuivons notre lecture en Philippiens 1, 12 et 13, où Paul leur écrit quelque chose d'intéressant. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Il écrit depuis une prison romaine. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai traversé, a contribué au progrès de l'Évangile. Paul a été arrêté, s'est retrouvé en prison à Rome et a déclaré, plutôt que d'entraver l'Évangile, Dieu s'est servi de ce qui m'est arrivé pour accélérer la prédication de l'Évangile. Ce que le diable voulait utiliser pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Mon ami, Dieu peut faire cela dans votre vie. L'un des thèmes principaux que nous trouvons ici dans le livre des Philippiens est la joie. Je le répète, réjouissez-vous. Il parle d'être joyeux et de se réjouir encore et encore. Bien qu'en prison, Paul a gardé une attitude joyeuse, et vous devez faire de même au milieu de vos épreuves. Dieu peut transformer ce qui est mauvais en quelque chose de bon. Paul n'a pas dit « Cela a contribué au progrès de ma prospérité et à mon confort personnel ». Il a dit, « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Quelqu'un pourrait se demander, « Comment est-ce possible? Comment sa doctrine pourrait-elle être juste ou sa vie être juste alors que toutes ces mauvaises choses lui sont arrivées ?» Ce n'est pas parce qu'une personne est au milieu d'une épreuve difficile que cette personne ou sa doctrine est mauvaise. Ce n'est pas parce que tout va bien pour quelqu'un que sa doctrine ou sa vie est juste. L'apôtre Paul a dit ceci en 2 Timothée 2:9. À cause de l'Évangile, je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Il a également écrit dans l'Épître aux Philippiens, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Dans ce verset, le mot prétoire désigne littéralement toute la garde prétorienne. Il s'agissait de la garde impériale de Rome, 10 000 soldats choisis et sélectionnés. Ils constituaient l'une des influences les plus puissantes de Rome, tant sur le plan politique que sur le plan militaire. Paul est enchaîné à un soldat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il travaille par roulement. Un membre de la garde prétorienne est donc enchaîné à Paul en permanence. Ses amis étaient autorisés à lui rendre visite. Alors qu'il est prisonnier, alors qu'il est enchaîné à ses gardes qui se relaient, les gardes l'ont entendu prêcher. Ils l'ont entendu prier, ils l'ont entendu enseigner, ils l'ont entendu dicter la Bible. Imaginez cela. Je suis sûr qu'il leur a témoigné et qu'il a parlé avec eux. L'Évangile atteignait maintenant ceux qui n'y avaient pas encore eu accès. Toute la garde prétorienne avait maintenant entendu le message de Christ. Dieu a transformé le mal en bien. Le diable disait certainement, « Il faut que je me débarrasse de cet apôtre Paul. Il sème le trouble partout où il va. Je vais le faire jeter dans une prison romaine. » Mauvaise décision, monsieur le diable. Maintenant, toute la garde prétorienne a entendu le message de Christ. Puis Paul a dit, « Et partout ailleurs. » Qu'est-ce que cela signifie partout ailleurs? Jusqu'où cela allait-il quand il a dit partout ailleurs? Eh bien, poursuivons notre lecture en Philippiens 4, 22. Écoutez ce qu'il dit dans la même épître. Tous les saints vous saluent. Ce sont les saints qui se trouvent à Rome, les amis qui lui rendent visite en prison, mais en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Les membres de la famille royale, la famille la plus puissante du monde connu, ont entendu l'Évangile et sont venus à Christ. Alors que Paul dicte ses lettres, ils disent « Veuillez transmettre nos salutations aux croyants des autres régions ». Imaginez cela. Toute la garde prétorienne a entendu l'Évangile, mais également les membres de la famille royal. Dieu s'est certainement servi de cela d'une manière sans précédent. Paul a donc dit, à propos de tout ce qui lui était arrivé, cela a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. D'autres ont désormais trouvé le courage de prêcher en voyant Paul faire preuve d'assurance et de joie dans ses souffrances. Ils ont vu que Paul a continué avec joie et assurance malgré ses épreuves. Cela a encouragé d'autres à faire preuve d'assurance dans leur évangélisation. Ils savent que s'ils doivent être escortés de la chair à la prison, ils seront en bonne compagnie. C'est un exemple remarquable de la façon dont Dieu peut transformer en bien ce que l'ennemi tente de faire pour le mal et faire avancer les desseins de Dieu. Au lieu d'intimider et de décourager les prédicateurs, Dieu s'en est servi pour les encourager et les inspirer, surtout lorsqu'ils ont été témoins du zèle et de la joie de Paul, et qu'ils l'ont vu, malgré les circonstances dans lesquelles il se trouvait, continuer à partager l'Évangile partout où des portes s'ouvraient à lui. Paul dit « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile ». Le message est parvenu à la famille royale, à la garde prétorienne. Cela a encouragé d'autres à prêcher l'Évangile. Je suis peut-être en prison et je ne jouis pas de ma pleine liberté. Et vous devrez revenir pour les prochains messages, car nous allons découvrir que Paul a parlé de leur prière pour sa libération. D'ailleurs, Dieu a exaucé cette prière. Mais cela fera l'objet d'un prochain message, car j'aimerais encore vous partager certaines choses en rapport avec ce dont nous parlons. Ceux qui ont été encouragés à prêcher se répartissaient en deux catégories, et Paul parle d'eux. Ceux qui avaient de mauvaises motivations et ceux qui avaient de bonnes motivations. Ils voient que Paul est en prison, mais qu'il tient bon. Il ne s'est pas laissé intimider, il est courageux. Ils sont donc inspirés, mais certains d'entre eux ont un cœur mauvais, tandis que d'autres ont un cœur bon. Écoutez ces versets. Versets 15 à 17, certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Intéressant. Quand il dit que ceux qui ont de mauvaises motivations prêchent l'Évangile par esprit de rivalité, en grec, cela signifie littéralement « faire campagne pour obtenir un poste ». C'est le terme utilisé pour désigner la campagne électorale. L'idée est que leur motivation pour prêcher est d'obtenir des votes pour eux-mêmes. C'est comme s'il disait « Paul est en prison, nous allons profiter de la notoriété dont il jouissait auparavant pour nous mettre en avant ». Ils se disputent les partisans, les adeptes, la reconnaissance et l'argent. C'était honteux, mais c'était la réalité. La triste réalité aujourd'hui, et je n'ai pas besoin de vous le dire car nous le savons, c'est que, tout comme à l'époque de Paul, certains utilisent le ministère comme un moyen de s'enrichir. Ils utilisent les dons que Dieu leur a donnés à leur propre fin. Mais Dieu merci, tout le monde n'entre pas dans cette catégorie. Je dirais que la plupart prêchent l'Évangile avec des motivations pures ou avec de bonnes intentions. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ils le font par amour, avec de bonnes intentions. Ils le font pour les bonnes raisons. Je crois que la plupart des gens entrent dans cette catégorie. Alors que dit l'apôtre Paul à ce sujet? Il sait que certaines personnes prêchent pour de mauvaises raisons. Beaucoup de gens prêchent pour les bonnes raisons. Que dit-il? Écoutez le verset 18 où il dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Il dit « Je vais simplement me réjouir parce que Christ est annoncé, car même si leur cœur est mauvais, leur doctrine est bonne et Dieu confirme la parole là où les gens y croient. » Ce n'est pas parce que Dieu a confirmé la parole qu'il approuve automatiquement le ministre. La vie et les motivations d'un ministre peuvent être mauvaises, mais si ce qu'il prêche est juste, si quelqu'un y croit, Dieu confirme la parole par des signes qui l'accompagnent. Ainsi, ce n'est pas parce que de bonnes choses se produisent que cela signifie que la vie ou les motivations du prédicateur sont approuvées. Mais Dieu confirme sa parole. Il soutient sa parole partout où elle est crue. Aussi, Paul a dit, « Je pourrais être déçu par cela, je pourrais être découragé par cela, mais je vais me réjouir, parce qu'au moins, Christ est annoncé. » Oui, leur cœur est mauvais, mais le message est juste et les gens seront sauvés lorsqu'ils entendront ce message. Des vies seront restaurées lorsqu'ils entendront ce message. Une dernière réflexion pour conclure. Paul a dit « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore ». Se réjouir est un choix, cela ne dépend pas de notre situation. Paul a dit « Certaines personnes essaient d'augmenter mes souffrances et de me rendre malheureux, mais cela ne marchera pas. Je me réjouirai, je choisis de me réjouir ». La joie ne dépend pas de notre situation. Vous traversez peut-être une période difficile que vous n'avez jamais connue auparavant. Je vous encourage, mon frère, ma sœur, levez les mains et commencez simplement à vous réjouir dans le Seigneur. Chantez ses louanges, car il est là, avec vous. Il est pour vous, il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Dieu vous connaît et vous aime. Je n'ai plus de temps, mais je prie simplement pour que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.